famille entre le prince Harry et la famille royale. Et c'est tellement représentatif, n'est-ce pas, de l'être humain, de nous en tant qu'être humain. On dirait là que quand il y a des choses, des belles choses, des choses qui vont bien, tout d'un coup, bang, un conflit. Et ça vient gâcher les choses et on dirait qu'en tant que race humaine, on est pogné avec ça, des conflits. Hein? On est fragile à ça. On est fragile à ça. Et cet automne, ce qu'on va regarder d'ici aux fêtes et peut-être un petit peu après, c'est comment résoudre les conflits de façon biblique. Comment on fait pour résoudre les conflits? On a survolé depuis plusieurs mois plusieurs aspects de l'identité de Christ dans les derniers mois et j'espère que, tout comme moi, vous avez été émerveillés devant autant de facettes de la personne glorieuse de Jésus. Aussi, c'est l'identité de Jésus-Christ qui en détermine la nôtre et qui oriente par le fait même nos désirs, nos attitudes et nos actions. Donc, comme je disais, cet automne, on va amorcer une nouvelle série, « Comment résoudre les conflits ». Et nous avons déjà étudié, qui était là il y a 8 ans quand on a étudié ça. Qui s'en rappelle? OK, qui met en pratique? Donc, ça fait déjà 8 ans. Et puis, on a jugé bon au Conseil des anciens, sous la direction de l'Esprit, de revenir là-dessus parce que on voit du conflit partout, partout, partout. Qu'on pense au conflit en Ukraine, au conflit entre les partis politiques aux États-Unis, les conflits en rapport avec les décisions gouvernementales par rapport à la pandémie, des conflits des syndicats avec le patronat, des conflits entre les provinces et le fédéral, des conflits entre les différentes ethnies, etc., etc. Non, mais... Et chacun de nous, personnel, au niveau personnel, nous vivons aussi régulièrement des conflits, n'est-ce pas? Que ce soit au niveau du couple, au niveau des relations au travail, dans l'église, à l'épicerie, au garage, partout où on se met le pied, tiens, tiens... Serait-ce qu'on fait partie du problème? Non, c'est les autres qui sont le problème, hein? Bien sûr. Je me suis rendu compte à travers les différents conflits que j'ai observés depuis 2 ans, surtout dans la période de la pandémie, que la presque totalité des enfants de Dieu ne connaissent pas les principes bibliques que leur Papa Céleste leur a donnés dans la parole, pour régler les conflits. Que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau dans l'Église, peu importe, les chrétiens ne connaissent pas les principes bibliques de la résolution des conflits. Est-ce que ça vous intéresse? Vous embarquez avec moi, avec nous? Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir, il va avoir 12 sessions d'enseignement. La plupart du temps, ça va être moi, mais des fois, ça va être Jean, Robert. Et après, il y a 4 sections, puis 3 points dans chaque section. Comme là, ce matin, on prend le premier point de la première section. Après les 3 points, après chaque section, on va faire des groupes de discussion le dimanche matin, comme on a déjà fait dans le passé. Ça marche? Fait que là, ces dimanches-là, il n'y aura pas d'enseignement, mais on va animer des discussions en petits groupes, puis on va revenir sur les points qu'on a vus. Ça marche? Fait que j'espère que ça va vous accrocher, que ça va surtout vous aider dans votre vie personnelle, dans votre quotidien. Ce qu'on a comme matériel est tiré surtout de ces volumes-là, L'artisan de paix de Ken Sandy, le petit livre-là, Résoudre les conflits quotidiens de Ken Sandy, Kevin Johnson, et il y a un livre de travail qu'on avait fait il y a 8 ans. Et je veux surtout reconnaître cette personne-là, Ken Sandy, qui est un avocat de formation aux États-Unis et qui est maintenant retraité, mais au tout début de sa pratique, il a connu le Seigneur Jésus et il a vu que il y avait beaucoup de conflits partout dans les églises, dans les vies des chrétiens, et il s'est consacré à découvrir les principes de la Bible pour résoudre les conflits. Et il a commencé un ministère qui s'appelle Peacemakers, artisans de paix en français. Et c'est ça, ça a été pendant des décennies qu'il a exercé ce ministère-là. Et l'organisme existe encore aujourd'hui, quoique lui a pris sa retraite. Donc, nous allons étudier ensemble ce sujet si important, si vital pour nous. Mais nous allons commencer cette fois-ci à partir de l'identité de Jésus-Christ. Fait qu'on fait un lien entre les deux séries. Hein, la série sur qui est Jésus et la série sur résoudre les conflits. Le lien entre les deux, c'est Christ, notre paix. Fait que je vous invite à tourner dans vos Bibles ou, si vous n'avez pas de Bible, de simplement écouter. Et on va lire plusieurs passages des Écritures. Le premier, c'est l'Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 11. On commence au verset 11. Éphésiens, c'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite à des chrétiens qui restaient dans une ville qui s'appelait Éphèse, qui était actuellement en Turquie. Et voici ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. Moi, je suis dans la version Sommaire. Paul dit, « C'est pourquoi vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs et qui donc être traité d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, à cause d'un rite accompli sur leur corps par des hommes. Rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. » Donc, Paul, il s'adresse à des non-Juifs, hein, puis il leur dit, « Vous étiez, rappelez-vous, sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. » Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Wow! Sans espérance, pourquoi? Parce qu'ils étaient sans Dieu, justement. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Car il est notre paix. Dans la version sommaire, c'est marqué « car à lui nous devons notre paix ». Mais vraiment, dans la version originale, c'est bien écrit « il est notre paix ». Qui ça? Jésus-Christ. Il est notre paix. Il a, en effet, instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Donc, Paul, il dit, vous étiez loin, vous ne faisiez pas partie du peuple de Dieu, c'était les Juifs le peuple de Dieu, mais maintenant, Jésus-Christ a fait des deux peuples un. Il a anéanti le mur qui les séparait, c'est-à-dire quoi? La loi de Moïse. On va revenir là-dessus tantôt. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches, les Juifs. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même Esprit. Amen. Maintenant, tournez juste un autre livre après dans Colossiens. Colossiens chapitre 1. Et là, c'est une autre lettre que l'apôtre Paul a écrite à des chrétiens dans une ville qui s'appelle Colosse. Et voici ce que Paul dit à ces chrétiens-là. Colossiens 1, 19. C'est en lui, en Jésus-Christ, que Dieu a désiré que toute la plénitude ait sa demeure. Toute la plénitude de Dieu demeurait en Christ, en Jésus-Christ. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Wow! Amen! Gloire à Dieu! On est en train de découvrir la base, la source de notre unité en tant que chrétien. Peu importe qu'on soit juif, qu'on soit pas juif, qu'on soit d'une telle ethnie, d'une telle arrière-plan culturel, de la langue, mâle, femelle, peu importe, riche, pauvre, nous sommes un. Pourquoi? À cause de ce que Jésus-Christ a fait, à cause de ce qu'il est. Christ est notre paix. Amen. Dernier passage de lecture, 2 Corinthiens. Donc ici, c'est une deuxième lettre que l'apôtre Paul écrit à des chrétiens qui se trouvent en Corinthe, une ville en Grèce. C'est sa deuxième, en fait, c'est probablement plus que sa deuxième lettre qu'il a écrit, mais bon, on a deux lettres. 2 Corinthiens, chapitre 5, un passage qui est connu de plusieurs. Deux Corinthiens 5:17. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature, ce qui est ancien est disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dispositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes, en guillemets, c'est au nom de Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui, Jésus-Christ, qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. On va revenir sur ce point-là tantôt aussi. Prions. Oh oui, Père Céleste, merci pour ce privilège que nous avons ce matin d'étudier ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. On a besoin de cette lumière, Père. On a besoin de ta lumière, plus que jamais, dans ce monde de ténèbres, dans nos cœurs enténébrés. Fais briller sur nous la lumière de ta parole, Père. Fais briller sur nous la lumière de ta face ce matin. Et change nos cœurs, Seigneur. Libère-nous des ténèbres, afin qu'on soit dans ta présence glorieuse, dans ta lumière glorieuse ce matin. Oui, Seigneur, on veut entendre ta voix seule. Chasse toute autre voix, afin qu'on puisse entendre ta voix qui nous parle ce matin, et que cette parole porte fruit dans nos vies, pour ta gloire, ô Jésus. Amen. J'ai pris l'habitude dernièrement, voici en passant toutes les choses qu'on a vues sur l'identité de Jésus, hein? Je suis le pain qui donne la vie, je suis la lumière du monde, la porte. Jésus est le bon berger, Jésus est la résurrection et la vie, Jésus le chemin, la vérité et la vie, le vrai cep, le vrai vigne, Jésus est l'ami des gens de mauvaise vie, Jésus est loin de Dieu, le Messie, Jésus est le sauveur du monde, Jésus la parole, hein, dans Jean 1, on a passé plusieurs semaines là-dessus, Jésus le fils héritier de Dieu, et ce matin on voit Christ notre paix. Et j'ai pris l'habitude dernièrement de faire ça, de vous donner ma phrase sommaire au début du message pour que vous sachiez en résumé, quand vous sortez d'ici, qu'est-ce que Brian a dit ce matin, peu importe ce que moi j'ai dit, mais la parole, qu'est-ce qu'elle nous a amené, c'est ça. Christ nous a réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres et nous a confié le ministère de la réconciliation. Les conflits sont donc des occasions à saisir pour la gloire de Christ, notre paix. OK? C'est ça le message. On peut tous s'en aller. Non, mais des fois, c'est fou, puis je suis comme vous, là. Des fois, 15 minutes plus tard, une demi-heure plus tard, de quoi il a parlé ce matin? En tout cas, là, je vous le dis, c'est de ça que j'ai parlé ce matin, OK? OK? Christ nous a réconciliés avec Dieu, amen, et les uns avec les autres. Et il nous confie un ministère de la réconciliation. Les conflits sont donc des occasions à saisir pour glorifier. Puisque nous avons un ministère de réconciliation, les conflits, c'est pas « ah non », c'est un « ah oui ». Vous n'avez pas cette habitude-là de regarder ça de même, hein? Mais non, c'est pas naturel, c'est contre nature. Mais les conflits sont une occasion pour glorifier le Seigneur. Oui, Danny?
Les conflits ne sont pas en dedans, nous autres.
Ah, ça, c'est un excellent point. Ça commence là. Oui, ça commence là. Ça commence là. Effectivement, on va regarder ça au courant du cours. On va examiner ce point-là. On ne peut pas tout regarder ce matin, là. On focus juste sur un point. La semaine prochaine, ça va être un autre point. Et il va falloir que vous soyez là pour tout l'automne, pour avoir toute la vérité sur les conflits. OK? Ça marche? Ce matin, c'est ça qu'on va regarder plus en détail. Christ est notre paix. La paix entre les Juifs et les non-Juifs prend sa source dans une personne. Et voilà ce qu'on va regarder pour le premier point ce matin. OK? On a lu dans Éphésiens que Christ a fait la paix entre les Juifs et les non-Juifs. Et cette paix-là est en sa personne. Nous avons lu que c'est parce qu'ils sont unis, les uns, les Juifs, à Christ, les autres à Christ, et donc, ils sont un. Si vous faites une soupe, là, hein, vous faites une soupe, c'est votre soupe soupe aux légumes. Et là, vous mettez des carottes. Bien, les carottes font partie de la soupe. Et là, vous mettez hein, des concombres. Bon, ma femme. Non, OK, mettez pas de concombres, c'est pas une bonne idée. Mettez du céleri. Et ça, j'ai vu quand ma femme a commencé à rire que j'avais pas pris le bon exemple. Mettez des céleri. Les céleri font partie maintenant de la soupe. Donc, les carottes et les céleri sont ensemble. Ils sont intégrés dans la soupe. Ils font une partie ensemble. C'est ça. L'unité entre juifs et non-juifs, c'est dans la personne de Christ qu'ils sont un. Parce que nous sommes unis en lui. Et aussi, Paul nous dit dans ce passage qu'on a lu dans Éphésiens, c'est parce qu'il a anéanti le mur qui séparait les non-juifs des juifs. Et c'est quoi ce mur-là? Il nous dit la loi de Moïse, l'ancienne alliance. On l'a écrit, là, la réponse est là. L'ancienne alliance. Regardez, tournez, retournez. Si vous n'êtes pas convaincu, Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 11, on a commencé là. Et on arrive au verset 14. OK? Car il est notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et a battu le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. L'ancienne alliance, c'était pour qui? C'était pour les Juifs. Si vous n'étiez pas là la dernière fois, quand j'ai parlé Christ, le médiateur de la Nouvelle Alliance, on a découvert que nous, les païens, on n'a jamais fait partie de cette ancienne alliance-là. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont mêlés. Ils prennent des choses dans l'ancienne alliance. « Ah, il faut que je respecte ça. » puis là, le Nouveau Testament, là, puis ils sont tous mêlés, là. Oui, il y a des principes moraux, il y a des choses qui sont révélées de la personne de Dieu, qui sont bons, qui sont encore vraies, mais on n'a jamais été sous l'ancienne alliance de Moïse, nous. Jamais. Et on a vu aussi que l'ancienne alliance a été remplacée par la nouvelle. L'ancienne, elle est terminée. OK? Mais cette ancienne alliance-là, qu'est-ce qu'elle disait? C'est que vous, Juifs, vous êtes le peuple de Dieu. Les autres? Non. Et vous, le peuple de Dieu, est-ce que vous pouvez vous unir avec les autres? Non. Vous ne donnerez pas vos filles en mariage, vous ne prendrez pas leurs filles en mariage. Il y a une séparation. Est-ce qu'un non-juif pouvait faire partie du sacerdoce, par exemple? Absolument pas. Hein? Dans le temple, il y avait la cour des païens, la cour des femmes, la cour des hommes et le saint des saints et tout ça. Séparé. Et les païens ne pouvaient pas aspirer, là, à moins qu'ils se convertissent puis éventuellement ils soient reconnus comme juifs. Mais là, il fallait intégrer le peuple de Dieu. Ils ne pouvaient pas avoir un pied en dedans et un pied dehors. C'était un mur qui les séparait, l'alliance de Moïse. L'ancienne alliance, il y avait un mur. Et Christ, il s'est marqué ici, regardez, il a abattu le mur. C'est comme le mur de Berlin. Hein? Quand on a vu tomber le mur de Berlin, on dit « Wow! » Ben Christ, il a abattu le mur. L'ancienne alliance, c'est terminé. Il a établi une nouvelle alliance, et dans cette une nouvelle alliance-là, il y a juste un peuple composé de juifs et non-juifs. Donc, Christ est notre paix, la paix entre les juifs et les non-juifs. Je lisais dernièrement dans un volume très intéressant que j'ai pris ici dans la bibliothèque sur le parler en langue, et puis je ne vous parlerai pas du parler en langue ce matin, mais ce que j'ai trouvé fascinant, c'est la façon dont l'auteur décrivait l'hostilité qui existait entre les Juifs et les non-Juifs, à tel point que même la langue, les Juifs croyaient que leur langue était sacrée. L'hébreu, c'était sacré. Et donc, les langues des nations, là, c'était vraiment impur, même, leur langue. Mais Dieu dit, je veux parler à ce peuple dans d'autres langues. Il dit ça dans l'Ancien Testament. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et les langues, c'est un signe pour les Juifs. Que Dieu, maintenant, ouvre la porte aux païens. Et c'est un jugement contre la nation qui refusait de recevoir. Ça, c'est un soi-disant en parenthèse. Mais regardez, c'est juste pour vous décrire. Parce que, vous savez, comme j'ai parlé des conflits là, qu'on veut vivre dans les églises, on a vécu des conflits épouvantables, pas ici, mais merci mon Dieu, mais il y a des conflits épouvantables dans les églises, vaccins, non-vaccins, etc. Là. Comment ça a été dur là, dans les églises? Deux camps, même des séparations d'églises. Mais c'est rien comparé aux juifs ou non-juifs dans le Nouveau Testament. Regardez l'arrière-plan de ce qui avait comme mentalité. Il dit, je vois Jonas qui déteste les langues, les Ninivites, au point de désobéir à Dieu. Il fuira à Tarsis plutôt que de leur apporter la parole du salut. Il contestera avec Dieu. Il souhaitera la mort de l'immense métropole plutôt que son salut. Pour lui, l'Éternel était le Dieu d'Israël et personne d'autre. En tout cas, pas de ces langues exécrées. Il ira dans son dépit jusqu'à appeler la mort contre lui-même. Si Ninive vit, que Jonas meure. Il reprocha à Dieu ce qui fait sa gloire, être le sauveur des hommes de toute langue, tribu, peuple et nation. Cet esprit d'opposition et d'incrédulité ne fera que se confirmer au travers des siècles. Eux, sont les Juifs, sont à Yahvé et Yahvé est à eux. Le cercle est fermé. Les autres sont des maudits. Toute tentative de fraternisation, même de tolérance envers les gens de notre langue, les hérissera en des haines qui atteindront des sommets effroyables. Mort aux autres langues, aux peuples qui les parlent. Osez suggérer que des gens d'une autre langue, que la leur, soient bénéficiaires des bontés de Dieu, c'était risquer la mort. Ils conduisèrent même le Seigneur Jésus jusqu'au sommet de la montagne afin de le précipiter en bas, quand il leur dit, « Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Il ne fut envoyé vers aucun d'elles, si ce n'est vers la femme de Sarepta de Sidon. » Ça, c'est quand Jésus revient à sa ville, Nazareth, il dit ça. Il dit, parce qu'il ne recevait pas de Jésus dans sa ville natale. Et il dit, un prophète, hein, il n'est pas sans honneur, sauf dans sa patrie, dans sa ville natale. Et il dit, Élie, il y avait plusieurs veuves dans l'Israël à ce moment-là. Il n'a pas été envoyé à aucun d'eux, mais à une veuve en Sidon, une ville païenne. Et là, la colère. Il voulait précipiter en bas de la falaise. Jésus ajouta pour leur plus grande colère, « Il y avait plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée. Aucun d'eux ne fut guéri, si ce n'est Naaman le Syrien, un païen. C'était assez à leurs yeux pour mériter la mort. Même les Samaritains, pourtant proches parents, n'échappaient pas à leur opposition raciste au point d'un jour, parce que Jésus n'avait pas été reçu dans une de leurs villages. Ses propres disciples, se croyant sans doute les émules du prophète Élie, ils ont demandé, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » D'ailleurs, la pire insulte qu'on pouvait faire à un juif, c'était de le traiter de samaritain. Quand ils avaient dit cela, ils avaient tout dit, ils crachaient par terre. Plus tard, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils retournèrent vers ces mêmes samaritains. Ils demandèrent au ciel non pas de les griller tous par le feu, mais que la grâce du plein salut leur soit accordée. Puis, je pourrais en lire encore, mais je voulais vous... Juste le Paul sur les marches de la forteresse, hein, quand il est arrêté, Paul, il demande au centurion d'adresser la foule. « Les choses vont repartir de plus belle à Jérusalem où Paul est revenu. » Quel récit prenant de ce chapitre 22 du livre des Actes. Paul, prisonnier, debout sur les escaliers de la forteresse, fait signe de la main, demande la parole. Il parle en hébreu, langue sacrée, et un grand silence se fait. Tous retiennent leur respiration pour mieux entendre. Paul raconte sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas, sa conversion. Ils sont suspendus à ses lèvres. Personne ne l'interrompt. Sans broncher, il écoute parler de son passé, de ses titres, de ses activités, de son zèle pour la cause juive. Il leur parle de l'apparition de Jésus. Il ne bronche toujours pas. Il leur parle du baptême. Il ne bronche toujours pas. Mais au moment où il entame sa phrase, « Le Seigneur m'a dit, je t'enverrai au loin vers les nations », la phrase reste suspendue. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole « les nations ». Ils poussèrent des cris, jetèrent leurs vêtements, lancèrent de la poussière en l'air et disaient « Hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. » Qu'est-ce qui les fait exploser? L'idée que Dieu serait aussi le Dieu de tout homme, de toute langue. Il devient facile de comprendre pourquoi de parler en langue est le signe de cette grande vérité et que pour ce peuple, c'était un moyen d'accès à la vérité. Donc, fascinant ce livre-là, très, très, très bien écrit. Un jour, peut-être qu'on reviendra là-dessus. Mais je trouvais que sa description était tellement bien faite, là. L'animosité qui existait dans le cœur des Juifs pour les non-Juifs, et vous savez, ben, les non-Juifs leur rendaient l'appareil. Dernièrement, on a pris un reportage sur une chaîne de télévision publique aux États-Unis, là, sur l'avant-deuxième guerre aux États-Unis, et comment l'antisémitisme était bien présent aux États-Unis. Parce qu'à ce moment-là, il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émigration de toutes sortes de peuples, de toutes les nations. Puis la majorité blanche, protestante, d'origine des États-Unis, se trouvait menacée. Et il y avait eu beaucoup, beaucoup d'immigrants juifs aussi, d'autres coutumes, d'autres religions. Ils ne se tenaient pas avec eux, tu sais. Fait qu'il y a eu beaucoup une réaction. Et ils ont commencé à limiter l'immigration, puis il y avait beaucoup de paroles antisémites. Ils bloquaient les Juifs, ils bloquaient tous les autres immigrants aussi. Et de sorte que lorsque la Deuxième Guerre est arrivée, bien, avant la Deuxième Guerre en Allemagne, quand que des choses commençaient à se passer en Allemagne, bien, les Américains n'étaient pas réceptifs. Ils ne voulaient pas croire. Et il y avait beaucoup d'Américains qui... c'est pour ça que ça n'a pas réagi. Mais c'est pour dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animosité entre les Juifs et les non-Juifs. Même quand Pierre va dans la maison de Corneille pour apporter l'Évangile, hein, là, il revient, les apôtres sont là. C'est que tu es allé faire là, dans une maison de païens. Ben, si je leur ai annoncé l'Évangile, ouais, puis, tu n'avais pas d'affaire à aller là. Ben oui, mais le Seigneur les a visités comme nous au début. Ah oui, ça veut dire que Dieu a accordé la repentance et la foi absolue aux païens également. Ben oui. La seule chose qui a pu les apaiser, c'était ça. Mais non seulement Christ est notre paix parce qu'il a fait la paix entre les Juifs et les non-Juifs, il a ouvert la porte à ce qu'il y ait paix en sa personne, il a anéanti le mur de séparation, l'ancienne alliance, mais il a aussi effectué, et plus encore important, la paix entre les humains et Dieu. Et ça, on l'a lu encore dans Éphésiens, parce qu'il est le sacrifice parfait. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Et là, on parle de Dieu et les hommes, pas des Juifs et des non-Juifs, mais ce qui faisait de nous et de Dieu des ennemis. Jésus, il l'a supprimé sur la croix. Il l'a pris sur lui. Tes péchés, mes péchés qui faisaient que j'étais ennemi avec Dieu. Par son sacrifice, Jésus-Christ ouvre la porte à la réconciliation entre les hommes et Dieu. Deuxième point, la réconciliation est chère au cœur de Dieu. On voit que même si Dieu n'avait aucun tort envers les êtres humains. Même si Dieu avait tout donné aux êtres humains, la vie, hein, la santé, toutes les créatures, toute la nourriture, la famille, toutes les belles valeurs, le soleil, la lune, les étoiles, tout, Dieu a tout donné et Dieu n'avait aucun tort envers les êtres humains. Les êtres humains se sont révoltés contre Dieu, mais même si Dieu n'avait aucun tort envers nous, il a fait le premier pas. Il a fait le premier pas. Wow! Peut-être que la prochaine fois que vous avez un conflit avec quelqu'un et que vous êtes blessé, cette personne-là vous fait quelque chose qui vous a irrité, qui vous a blessé, qui vous a révolté, je ne sais pas trop là, quel mot mettre, et puis... Pensez que même si dans votre tête, vous n'avez aucun tort, là, le pattern biblique, là, c'est de faire le premier pas. Dieu n'avait aucun tort. Dieu aurait pu laisser l'humanité aller, comme on a déjà parlé, dire « fini ». On voit que la réconciliation est chère. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Et c'est souvent ça qu'on oublie, l'amour, dans les conflits. Dieu a fait le premier pas, même lorsque nous étions ses ennemis. Cela révèle le cœur d'amour, de bonté, une attitude favorable envers nous. Et nous réconcilier avec lui, non seulement il a pris le premier pas, mais ça lui a coûté très cher. En plus, ça lui a coûté la souffrance et la mort de son fils. Alors, par là, on voit que la réconciliation, c'est une valeur très importante au cœur de Dieu. Et on ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, ben, avoir des conflits à gauche, à droite, puis laisser ça là, sans chercher la réconciliation. Parce que ce n'est pas dans la nature de Dieu. Et si on veut ressembler à notre Père, si on veut glorifier le Père, il va falloir qu'on commence à penser comme Dieu. L'Évangile, c'est l'histoire d'un conflit que Dieu a réglé entre quelqu'un qui n'avait aucun blâme et nous qui avions tout le blâme. Alors, dans nos conflits, il est excessivement rare qu'une personne ait tout le blâme à 100%. On va voir ça dans les semaines à venir. Mais même dans ce cas-là, extrême, on voit que Dieu a cherché la réconciliation. Et l'Évangile, en bref, c'est l'histoire d'une réconciliation, n'est-ce pas? La réconciliation est chère. La réconciliation est chère au cœur de Dieu. C'est l'Évangile en action. Quand on vit, quand on recherche la réconciliation, frères et sœurs, on est en train de vivre l'Évangile. On est en train de mettre en action l'Évangile. Et tu ne peux pas t'appeler serviteur de Jésus-Christ, disciple de Jésus-Christ, et dire, ça, cette personne-là, je ne veux plus rien savoir d'elle, puis je ne cherche pas la relation, oublie ça. Puis telle personne, non, c'est fini. Puis tel autre groupe là-bas, là, non, je ne veux rien savoir d'eux autres, c'est terminé. Tu ne peux pas t'appeler disciple de Jésus-Christ et faire ça. Maintenant, ça ne dépend pas toujours de nous. Mais dans ton cœur, dire c'est fini, parce que non. La réconciliation est chère au cœur de Dieu. C'est lui qui a pris le premier pas. Ça lui a coûté très cher. Et il veut que nous, on soit des ministres de quoi? De la réconciliation. Des ministres de la réconciliation, premièrement avec Dieu, et aussi entre les êtres humains. C'est une identité que nous recevons à cause que Christ est notre paix. Notre identité découle de la sienne et de son œuvre. Maintenant, les conflits sont donc une occasion pour glorifier Dieu. Étant donné que nous avons été rachetés à un grand prix, nous lui appartenons et nous existons pour sa gloire. Hein? 1 Corinthiens 6, 19 à 20, qu'on va lire. 1 Corinthiens 6, 19 à 20, un passage qui est très bien connu de beaucoup de gens. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps, et certaines versions vont dire, et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La réconciliation, si nous la recherchons, écoutez bien, va toujours nous coûter quelque chose. La réconciliation, si nous la recherchons, va toujours nous coûter quelque chose. Que ce soit, premièrement, juste le simple fait de s'humilier, ça coûte. Ça coûte s'humilier. Ça coûte à notre chair, à notre égo. Okay? Juste ça, là, premièrement, première des choses, ça coûte. Ça coûte reconnaître ses torts, etc. Ça coûte peut-être faire des réparations. Mais pourquoi alors rechercher la réconciliation? Parce que le fait de rechercher révèle déjà à notre entourage quelque chose de la personne de Dieu. Oui, Jean-Claude. Amen. Oui. C'est vrai, c'est un excellent point. Et ça me rappelle une histoire qu'on avait déjà lue ici. Un sage voyait ses deux petits-fils se chicaner. Il a dit, il les a amenés ensemble, il a pris une corde, toi prends le bout, et il a coupé la corde. Et ça, c'est ce qui se passe quand vous vous chicanez, vous êtes coupés l'un de l'autre. Maintenant, il dit, on va prendre les deux bouts, on va faire un nœud pour rattacher la corde, hein? Maintenant, vous avez les deux bouts, là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous êtes plus proches l'un de l'autre. C'est ça, c'est un des bénéfices de la réconciliation. Le nœud a fait que vous êtes plus proches. Merci, Jean-Claude. Oui. Oui. C'est ça. C'est pour ça qu'on est tellement proches, Lorraine et moi. Ben, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui rient jaune aussi là-bas, là. Alors, quand on dit les conflits sont une occasion pour glorifier Dieu, qu'est-ce que ça veut dire glorifier? Parce que cet été, j'étais en contact avec quelqu'un qui vivait un gros conflit conjugal. Puis j'ai dit, ben cherche la gloire de Dieu. Et j'ai réalisé qu'elle ne comprenait pas. Elle dit, ah ben je vais louer le Seigneur, oui, je vais passer du temps dans la louange. Non, c'est pas ça que je veux dire, là. Mais ça veut dire quoi, d'abord? Glorifier. Glorifier Dieu. Ça veut dire quoi, glorifier Dieu? Ça veut dire attirer l'attention sur Dieu. Ça veut dire élever la personne de Dieu. Ça veut dire l'honorer, verbalement ou avec nos biens, notre comportement, tout ça. Vous savez comment on appelle l'équipe du Canadien de Montréal? Nos glorieux. Hein? Et qu'est-ce qui se passe quand ils gagnent la Coupe Stanley? Eh, mon ami, la parade, hein? Puis c'est les gros fanéons, les ballons, mon ami, la parade. Et tout le monde en parle, puis tout le monde a les bras en l'air, puis chante, puis crie. Ouais, ça, on n'en parle pas. Mais c'est ça, glorifier. C'est ça, glorifier. C'est honorer, c'est rendre hommage, c'est exalter. Mettre en évidence, attirer l'attention, c'est ça. Alors, les conflits, si on cherche la réconciliation, c'est une occasion de faire ça avec Dieu. Mais lors d'un conflit, mais non, mais oui. C'est comme la dernière chose à laquelle on pense quand on est dans le conflit, hein? Vous êtes comme moi? C'est comme la dernière chose qui nous rend en tête, glorifier Dieu dans un conflit, là. Et pourtant, la parole nous dit, quoi que vous fassiez, hein, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais avant de parler de comment glorifier Dieu, parlons un peu de comment nous, les êtres humains, on réagit au conflit de façon habituelle et même, je dirais, inconsciente. OK? Et ce que je vais vous dire là est tiré justement du volume écrit par Ken Sandy. Et il dit, M. Sandy, et c'est pas juste lui qui dit, c'est des choses qui sont bien connues. Il y a deux grandes catégories de réactions qui caractérisent les êtres humains face à un conflit. Les réactions échappatoires et les réactions d'attaque. Donc là, le feu du conflit, on peut caractériser un conflit comme un feu qui part. Et face au conflit, les êtres humains vont avoir tendance à deux réactions complètement opposées. Et souvent, c'est même inconscient. Donc, la première catégorie, ce sont les réactions échappatoires. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que les conflits sont vus comme dangereux et mauvais. C'est une réaction qui est très fréquente dans l'Église, parce que nous, les chrétiens, pensons que les croyants devraient être tous d'accord toujours. Ou on a vu les dégâts que peuvent causer les conflits et on n'en veut pas. Fait que s'il y en arrive un, on a tendance à vouloir s'échapper. Ou on a des enjeux personnels, on a peur de déplaire. Ou on a peur de la réaction des autres, qui peut être imprévisible et susceptible de nous blesser. Ou on a peur de déranger. On ne se voit pas digne de prendre une place, de peur de s'attirer de l'attention. Fait que toutes ces raisons-là, et il y en a sûrement d'autres, vont pousser la personne à vouloir s'échapper. Et dans les réactions échappatoires, la première, c'est le déni. Conflit? Quel conflit? Il n'y a pas de conflit. Mais la preuve que tout ne va pas bien, c'est que donner la bonne occasion avec les bonnes personnes, on murmure, on critique, on fait le procès de l'autre. fait qu'il y a un conflit. Mais non, il n'y a pas de conflit, ça va bien. Tout va bien en apparence. Et c'est souvent ça dans les églises, tout va bien en apparence, mais ça bavarde en arrière, ça parle, as-tu vu ce que Brian a fait, as-tu vu ce qu'il n'a pas fait, as-tu vu ce que Jean, ah ben là, Robert il est comme ci, Linda est comme ça, ta. Il n'y a pas de conflit. Deuxième réaction échappatoire, c'est la fuite. On s'avoue qu'il y a bien un conflit, mais là, notre réaction, c'est de s'en aller. C'est de sacrer son camp. On cherche à tout prix à s'en éloigner le plus vite possible. Et ceci peut prendre plusieurs formes. Ça peut être physiquement, on quitte la maison. Ça peut être démissionner d'un poste, mettre fin à une amitié, se divorcer, quitter l'Église pour une autre, ou s'enfuir dans l'alcool, ou s'enfuir dans un monde imaginaire de romans, ou dans un monde virtuel, la pornographie, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des fuites. Mais on sait bien que ça ne réglera jamais rien. Inévitablement, ça ne fait que déplacer le problème ailleurs, ou tout au moins, ça n'aide en rien les personnes impliquées, et ça rate l'occasion de glorifier le Seigneur. Oui, il est tout à fait légitime et même sain de prendre du recul. On n'est pas en train de dire que, mettons, aller prendre une marche pour réfléchir, se calmer, prier, c'est sain, c'est correct. Mais la fuite peut être une réaction normale au début, et surtout lorsque, mettons, notre sécurité ou notre santé est menacée, c'est une réaction normale. Si quelqu'un te pointe un gun, bien, je te conseille de t'enfuir. Mais ça devrait être temporaire. Dans les réactions échappatoires, si la personne reste dans ça, ce qui va arriver, c'est que là, la colère, l'amertume et tout ça va fermenter dans son cœur et au lieu d'être dirigé contre la personne qui est responsable dans notre tête, elle se redirige vers l'intérieur. Et là, la dépression peut s'en suivre et même jusqu'au suicide. Maintenant, de l'autre côté extrême, c'est les réactions d'attaque. Donc, certaines situations vont susciter cette réaction en nous. Ou, parfois, on a pris l'habitude de réagir comme ça. La plupart du temps, on a opté soit pour une stratégie ou pour une autre quand on fait face à des conflits. Typiquement, on va aller soit d'un bord ou soit de l'autre. Dans notre nature, dans notre éducation, dans les modèles qu'on a reçus à la maison, etc. Les personnes qui ont l'habitude de passer en mode attaque ont appris, par les expériences, que de réagir en attaquant, ça marche. Ça marche. Pareil comme si les gens qui ont pris l'habitude de nier ou de s'enfuir, bien, ça marche dans leur tête. Ça marche, ils évitent le problème. Ça marche, en guillemets. Ça ne marche pas longtemps et ça ne marche pas vraiment. Mais les personnes qui ont eu l'habitude, qui ont l'habitude de passer en mode attaque, c'est parce qu'ils ont eu du succès. Ils ont vu que ça marchait. Ça marchait. On est axé sur gagner et ça nous ne dérange pas de sacrifier la relation. On se dit que c'est soit lui ou moi qui va dominer et je préfère que ce soit moi. Puis comme j'ai dit, on a appris par nos expériences, on a appris par nos modèles également, nos parents. Moi, mon père était pacifiste. Si mon frère et moi, on chicanait, on chamaillait, on disait non, faut pas vous fassiez ça, faut soyez gentil. Bon, gentil, mais tu sais pas ce qu'il m'a fait, cette tabarnouche. Non. Fait qu'il réglerait, il réglait jamais rien. Mais il faut pas. Lui, il était pacifiste, c'était surtout le déni, la fuite. Ma mère, c'était d'autres choses. J'ai réalisé plusieurs années plus tard que dans notre mariage, j'avais tendance à nier le conflit, à l'éviter, parce que j'avais appris du modèle de mon père. Et je croyais, comme j'ai dit, que les conflits, c'était mauvais en soi et donc à éviter. Je refoulais ce que je vivais dans ma relation avec mon épouse. Par contre, le bouchon finissait par toujours sauter. Et là, je passais en mode attaque. Et c'est ça aussi, on peut aller d'une réaction à l'autre. Si tu es vraiment acculé au mur, là, ben ça se peut que tu passes en mode attaque. Comme la marmotte qui s'est trouvée un jour coincée dans notre margelle de fenêtre, dans notre ancienne maison, la rue dehors. Il y a une marmotte dans la margelle. Ah, ben, on va sortir. Une marmotte, tabarnouche! C'est comme un dragon, là. C'était féroce. Qui a pensé? Parce qu'une marmotte, qu'est-ce que sa réaction normale, c'est quoi? La fuite. Mais là, elle était acculée au pied du mur, littéralement. Et j'ai fait le saut. J'ai reculé d'à peu près 6 pieds. Une marmotte, ça peut être agressif quand ça passait en mode attaque. En parlant de mode attaque, cela peut inclure l'assaut. Par l'assaut, on parle verbal, et ça peut inclure la médisance, la diffamation, ou ça peut être physique. Cela peut également prendre la forme d'attaquer les avoirs de la personne. Moi, là, à un moment donné, je me rappelle encore comme si c'était hier, mon frère, il m'avait tellement enragé, j'ai pris son meilleur crayon, là, il était furieux, là, parce que je ne pouvais pas m'attaquer à lui, il était plus grand, plus fort, mais moi, je me suis attaqué à ses biens. On peut porter atteinte aux avoirs de la personne, à sa réputation, ou comploter, manigancer pour lui faire des torts, professionnellement ou financièrement, ça c'est l'assaut. Il y a aussi le procès, traîner quelqu'un en cour. Et on a des exemples de ça dans 1 Corinthiens 6, où Paul dit aux Corinthiens, « C'est quoi que j'entends là? Vous vous traînez en cour, les uns, les autres. » Et donc, ce n'était pas juste un procès, c'était devenu comme courant que les chrétiens se traînaient en cour pour avoir gain de cause dans leur affaire. Bien, c'est une autre façon d'attaquer. C'est une autre façon de forcer l'autre à plier à ma volonté. Et finalement, le meurtre, la réaction extrême du mode attaque et sa conclusion naturelle. Moi, j'haïssais tellement mon frère, là, que je l'ai dit plusieurs fois, plusieurs personnes, il n'aurait pas fallu que quelqu'un là, me tende un poignard parce que je ne l'aurais poignardé. Mais c'était ça dans mon cœur. C'était ça, et c'est ça qui a conduit à mon salut, finalement. Parce que j'ai reconnu que si je me tiendrais un jour devant Dieu, le jugement, Dieu voit dans mon cœur. Il voit que je n'ai pas passé à l'acte, mais que j'aurais voulu. Je suis meurtrier, c'est ce que Jésus dit. Jésus nous déclare que d'entretenir la colère contre notre frère constitue déjà un meurtre dans notre cœur. Mais Brian, pourquoi tu nous parles de ces choses? Ce n'est pas spirituel. On veut apprendre des vérités sur Dieu. On veut que tu nous apprennes des nouvelles choses qu'on ne connaissait pas de la Bible. Est-ce que Dieu s'intéresse vraiment à la façon dont j'agis avec mes collègues de travail? Avec mes employés, mon employeur? Avec mon conjoint, ma conjointe? Oh oui. C'est très spirituel. Partout dans le Nouveau Testament, nous sommes exhortés à maintenir de bonnes relations avec toutes ces personnes, même les autorités. C'est donc qu'on ne peut pas divorcer notre vie quotidienne de l'Évangile. C'est l'Évangile vécu. C'est l'Évangile en action. Plénitude de grâce et de vérité, comme notre Maître nous l'a modelé. Et là, chers frères et sœurs, je vais vous dire une vérité. Vous devez, comme moi, changer de modèle pour comment vous gérez vos conflits. vous devez changer de modèle. Il faut abandonner nos anciennes façons d'agir et de réagir aux conflits si on veut glorifier notre Dieu qui mérite toute la gloire. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus nous a modelé? Premièrement, Jésus vivait pour la gloire de Dieu. Si tu es un chrétien, tu as ton billet pour le ciel, tu as cru au Seigneur Jésus, oui, j'ai mon billet pour le ciel, mais tu ne vis pas pour glorifier le Seigneur, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Tu peux être croyant, mais tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Mais un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui suit Jésus, qui organise sa vie, qui structure sa vie et sa personne autour du modèle de Jésus-Christ, qui modèle sa vie sur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne recherche pas la gloire pour moi-même, c'est un autre qui s'en préoccupe, il me rendra justice. Jean 8, 50. Je ne recherche pas la gloire pour moi-même. Un problème, là? Ça commence là. Est-ce qu'on vit vraiment pour la gloire de Dieu? Ou est-ce qu'on recherche encore notre propre gloire? Jésus dit encore, « Je ne recherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 5, 30. Si ça, ce n'est pas vrai dans ta vie, là, tout ce qu'on va voir cet automne, ça va tomber. Ça va tomber à l'eau. Ça va être un coup d'épée dans l'eau. Ça va rentrer dans l'oreille, sortir par l'eau. Si ça, ce n'est pas vrai, c'est la base. Chercher à vivre pour la gloire de Dieu. Car, Jésus dit, je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Si donc, que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Dit Paul dans 1 Corinthiens 10, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Cela veut dire que même lorsque je vis un conflit, ma façon d'agir doit servir à glorifier Dieu. Comment? Alors, nous allons découvrir dans les prochaines semaines les principes merveilleux à travers de ce cours, mais pour débuter, tu peux déjà confesser que tu n'as pas cherché sa gloire et t'engager à le faire dorénavant. C'est sûr, comme j'ai dit, c'est contre nature. Lorsqu'on est dans un conflit, c'est comme la dernière chose à laquelle on pense. Et souvent, lorsqu'on est dans un conflit, si quelqu'un te poserait la question, « Où est Dieu dans ton affaire? Où il est Dieu? Où il est Jésus? » C'est comme, « Jésus, qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans? » C'est comme la dernière personne à laquelle on pense, la dernière chose à laquelle on pense de glorifier Dieu. C'est contre nature. Mais lors d'un prochain conflit, voici ce que tu peux déjà mettre en pratique. Parce que là, ce matin, on jette les bases. Hein? On jette les bases. Les conflits sont une occasion pour glorifier Dieu. Jésus-Christ, notre paix, nous a réconciliés avec Dieu, nous a réconciliés les uns les autres. C'est la base de tout ce qu'on va voir à l'automne. Mais déjà, lors de ton prochain conflit, voici ce que tu peux déjà mettre en pratique. 1. Rappelle-toi que Christ est ta paix. Il t'a réconcilié avec le Père et avec tes frères et sœurs par sa mort à la croix. Rappelle-toi qui est Christ et qui tu es en lui. Tu es un réconcilié. Tout, on a vu ça, on martèle ça, tout découle de notre identité. Rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi qui Christ est, rappelle-toi qu'est-ce qu'il a fait. 2. Exerce ta foi que Dieu est au contrôle même de cette situation-là. On est tous pareils, frères et sœurs. Lorsqu'on arrive dans un conflit, c'est comme s'il y a une bombe qui explose en pleine face. Hein? Et là, ça fait éclater tous nos repères, ça fait éclater tout. On oublie tout et on oublie que Dieu est au contrôle. Parce que là, il est arrivé un événement hors de notre contrôle, un événement douloureux, un événement surprise souvent, et ça vient d'exploser. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vient ébranler notre foi. Et ça vient nous faire oublier que Dieu est là, que Dieu est présent, et que Dieu même est au contrôle de tout ça. Souvent, dans des situations qu'on peut vivre dans nos vies, ça nous amène à se sentir seul. Hein? Pas vrai? Un conflit, c'est ça aussi, là. Moi, quand je vis un conflit, tout de suite, je me sens comme seul. Il faut prendre conscience de ça. Et dire, non, Dieu, tu es là. Et Dieu, tu es souverain. Dieu, tu es même au contrôle de cette situation. Et je veux te faire confiance. C'est d'exercer ta foi que Dieu est au contrôle même de cette situation-là. Où est Jésus dans ta situation? Peut-être qu'actuellement, tu vis un conflit. Où est Jésus? Oui, Jean-Claude? Ouais. Impossible, ouais. C'est ça, oui. Ouais. Amen. Oui. Exactement. Voilà. Amen. Excellent, Jean-Claude. Et puis c'est ça, souvent, moi, je suis obligé de crier à Dieu, là, quand je suis dans un conflit, « Seigneur, viens mon secours, parce que je ne suis pas capable. » Puis Dieu m'a toujours répondu pour me dire que je suis là, je suis au contrôle, fais-moi confiance. Et puis premièrement, rappelle-toi que Christ est ta paix, rappelle-toi qui tu es. Deuxièmement, exerce ta foi que Dieu est au contrôle. Troisièmement, recherche la gloire de Dieu. Dans le conflit? Oui, dans le conflit. Ken Sandy nous dit, « L'une des meilleures manières de garder votre attention sur le Seigneur est de vous poser continuellement les questions suivantes. Comment puis-je honorer et satisfaire Dieu dans cette situation-là? » Comment puis-je rendre gloire à Jésus en démontrant qu'il m'a sauvé et qu'il me transforme? Il dit, lorsque manifester les richesses de l'amour de Dieu et le satisfaire, lui, sont plus importantes que de s'attacher aux choses de ce monde et à se plaire ou à revendiquer ses droits, il devient de plus en plus naturel de réagir avec grâce, sagesse, et maîtrise de soi dans un conflit. Je répète. Lorsque manifester les richesses de l'amour de Dieu et le satisfaire sont plus importants que de s'attacher aux choses de ce monde et à se plaire, il devient de plus en plus naturel de réagir avec grâce, sagesse et maîtrise de soi dans un conflit. Cette approche rend gloire à Dieu et permet d'apporter réellement la paix. Cela est contre nature, je vous l'assure, surtout lorsqu'on est blessé profondément. C'est contre nature, c'est surnaturel, mais c'est à la portée de tout enfant de Dieu. Amen. J'aimerais vous lire un extrait de ce livre, un exemple en terminant, si je peux le trouver. C'est un fait vécu, là. J'aurais voulu vous lire. OK. C'est pas lui. Ah oui, OK. Donc, l'histoire, c'est une famille de 7 enfants et leur mère, en perte d'autonomie, est à la maison. Puis là, 5 des enfants pensent que telle solution serait meilleure. Et il y a 2 sœurs qui sont opposées, mais se chicanent l'une avec l'autre. Et là, M. Sandy était appelé pour essayer de régler ce conflit-là. Il dit que les différentes réactions à un conflit et leur dynamique associée se sont dramatiquement révélées dans un conflit familial dans lequel j'étais médiateur. On m'avait demandé d'aider 7 frères et sœurs adultes à régler une querelle qui portait sur le fait de laisser leur mère âgée chez elle ou de la placer dans une maison de retraite. 5 d'entre eux faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour échapper à l'affaire. Réaction échappatoire. Soit en prétendant que le conflit n'existait pas, ou en refusant de se rencontrer avec les autres pour en parler. Est-ce que ça aide? Ça ne règle rien. Les 2 autres s'attaquaient avec intensité, se calomniant l'un l'autre dans la famille ou chez des amis et se battant au tribunal pour obtenir la curatelle. Réaction? D'attaque. Le premier pas dans la gestion de la querelle fut d'aider la famille à changer la manière de réagir dont ils avaient fait preuve dans la situation. Les 5 premiers qui tentaient d'échapper au problème, finalement, ils font partie du problème, ont finalement compris les bénéfices d'une médiation et ont accepté de se rencontrer. Les 2 autres sœurs ont accepté la médiation à contre-cœur, c'est sûr, parce qu'eux autres, là, sont habitués de gagner. Ça a fonctionné dans le passé. Pourquoi j'irais en médiation? Je vais attaquer, et finalement, je vais avoir gain de cause. Je vais avoir ce que je veux. Voyez? Fait qu'ils ont accepté la médiation, mais à contre-cœur. C'est normal. C'est la nature humaine. On n'est pas différent. On serait pareil. Les 2 autres sœurs ont accepté, OK, mais ont continué de s'attaquer durant nos rencontres. S'accusant de fausses intentions et demandant des solutions contraires. Notre investissement de temps et d'énergie ne produisait aucun résultat et les relations étaient de plus en plus endommagées. Et c'est pour ça aussi que des gens, des fois, ne veulent pas aller vers une réconciliation parce que souvent, ça a été mal fait. Et les choses s'enveniment. Fait qu'ils disent, non, c'est mieux de pas s'en mêler. Mais regardez ça. Ici, la gloire de Dieu. J'ai finalement demandé à parler avec les 2 sœurs en privé. Mettant de côté la question de la curatelle pour un moment, je leur ai demandé d'examiner la manière dont elles se traitaient l'une l'autre. Alors que nous examinions leurs attitudes et leur comportement à la lumière de quelques passages appropriés de la Bible, le Seigneur commença à travailler dans leur cœur. La cause réelle de leur conflit fit enfin surface. 20 ans auparavant, l'une d'entre elles avait dit quelque chose qui avait profondément blessé l'autre. L'offensé couvait l'insulte et leur relation était empoisonnée. En conséquence, elles s'opposaient l'une et l'autre sur tout, même si cela incluait la prise en charge de leur mère. Et frère, ça, c'est un principe qu'on va voir là autour, mais je vous le donne en primeur, là. Souvent, les conflits, c'est à peu près d'une niaiserie, mais ça touche à quelque chose. Autre. Alors que nous continuons à parler et à prier, elles commencèrent à s'occuper de leurs émotions et leurs actions à la lumière de l'Évangile. Dieu œuvra dans leur cœur et elles confessèrent leurs péchés et se pardonnèrent mutuellement. Des larmes dans les yeux, elles s'embrassèrent pour la première fois depuis plus de 20 ans. Elles ont vite rejoint leurs frères et sœurs et ont expliqué ce qui s'était passé. En 5 minutes, les 7 enfants se mirent d'accord sur le fait que leur mère serait plus heureuse chez elle, et en 15 minutes supplémentaires, ils négocièrent un emploi du temps pour la prendre en charge. Comme vous pouvez l'imaginer, lorsqu'ils lui annoncèrent la nouvelle, La réconciliation de ses enfants lui apportait beaucoup plus de joie que la décision prise concernant le restant de sa vie. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, roi de gloire, créateur souverain du ciel et de la terre. Combien, Seigneur, tu es grand et glorieux. Combien tu es merveilleux. Combien tu es rempli de grâce, de bonté, d'amour. Toi, Seigneur, qui avais tout fait pour les êtres humains, qui avais tout donné, et de voir tes créatures se révolter contre toi, de tout pervertir, de tout détruire, de s'haïr mutuellement, de t'haïr toi. Mais tu as pris le premier pas pour nous réconcilier à toi et ça t'a coûté très cher. Mais en même temps, Seigneur, toute la gloire te revient. Seigneur Dieu, je te confesse que dans ma vie, souvent, je n'ai pas vécu pour ta gloire. Je n'ai pas cherché ta gloire au milieu de mes activités, au milieu de mes conflits. Seigneur, ce matin, nous voulons te confesser cette chose. Te confesser nos mauvaises réactions face au conflit. Et te demander la grâce, Seigneur, la force par ton esprit d'agir pour ta gloire. Bénis ce cours, Seigneur. Conduis-nous à travers ce cours et que ce cours puisse vraiment porter fruit pour ta gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ce matin. Béni soit ton nom. Amen. On va passer un temps de... Oui. On va passer un temps de louange, de prière. Mais si ce matin, vous avez besoin de prière par rapport à un conflit que vous vivez,